bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible. Et une nouvelle fois aujourd'hui, j'accueille Philippe Délay. Bonjour.
Bonjour Gaël.
Notre invité et interlocuteur pour parler de cette thématique et surtout à travers la prophétie, puisque depuis un certain nombre d'émissions, nous parlons de prophétie et plus récemment de prophétie dans le livre de l'Apocalypse, où nous y découvrons les textes anciens, à la lumière d'ailleurs de faits historiques, puisque ce sont ces faits historiques et cette actualité qui confirme la réalisation progressive de ces prophéties. Alors Philippe, lors de nos précédentes émissions, nous avions identifié la bête décrite dans Apocalypse 13, un chapitre que nous avons commencé déjà depuis quelques émissions, une bête qui sort de la mer et qui possède le caractère du dragon identifié, lui, dans le chapitre 12. Alors ce dragon lui-même, nous l'avions comparé dans le livre de Daniel aux prophéties du chapitre 7 et aux différentes bêtes qui y sont présentées. Tous ces versets bibliques, couplés à l'histoire de notre humanité, nous ont permis de déterminer que cette bête du chapitre 13 représente le système papal. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre l'étude de ce chapitre 13.
Eh bien, avec plaisir, Gaël. Et je vous invite à lire la suite du chapitre 13 à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Lors de l'étude du chapitre 12, nous avions fait connaissance avec le dragon qui est l'adversaire ou le Satan. Celui-ci s'acharne contre le reste qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Ensuite, comme vous venez de le citer, nous avions, lors de notre dernière émission, découvert qui se cachait derrière cette bête qui sortait de la mer. Maintenant, nous avons affaire à une deuxième bête qui, à la lecture de ces deux versets, nous paraît être du même acabit, en fait.
Alors, j'imagine, afin de rester logique dans la symbolique biblique, nous pouvons dire que cette deuxième bête est assimilée, là encore, à un État, un gouvernement ?
Bien sûr, les règles bibliques ne changent pas. Une bête correspond à un État ou à un pouvoir politique ou une puissance, nous l'avions vu. Nos contemporains font écho à la définition que la Bible donne concernant une bête. Et je voudrais vous inviter à écouter ce commentaire de Marie-France Garraud sur France Info en 1986. Je cite « Les États sont des monstres froids avec lesquels on ne fait pas de sentiments. » Alors, dans un premier temps, je désire développer le verset 11 du livre de l'Apocalypse. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Eh bien, ce verset va nous donner de grandes précisions quant à cette bête. Tout d'abord, « puis je vis monter ». Le mot « puis » nous met directement en relation avec la bête précédente. Nous avions identifié la première bête, sa blessure mortelle, et la date à laquelle ces événements ont eu lieu, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Donc, cette nouvelle bête qui monte de la terre doit se situer à peu près à cette époque. Alors, cherchons quel pouvoir émerge fin XVIIIe, début du XIXe siècle.
Vous voulez dire que la prophétie nous informe qu'un nouvel État entre dans l'histoire avec un grand H ?
Tout à fait. La Bible nous le dit, mais continuons de lire. Cette bête avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Nous avions vu que les cornes dans la Bible sont les symboles de puissance et de force. Et ici, elles sont toutes petites. Elles viennent de percer. Elles paraissent inoffensives. Donc, ce nouvel État vient de naître. Il n'a pas vraiment d'histoire. Et puis cette bête monte de la terre, contrairement à la précédente qui, elle, monte de la mer. Rappelez-vous, la mer représente les foules, les nations. Et je vous cite Apocalypse 17, au verset 15. « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Donc, la première bête est issue des eaux, ce qui symbolise les guerres, les renversements de pouvoir. Et la deuxième, elle émerge de la terre, endroit peu peuplé, paisible, et sans passer par le choc des guerres.
Oui, mais le verset nous précise quand même qu'elle parle comme le dragon.
Et oui, et cela paraît bizarre. Mais cette bête, qui semble inoffensive, parle effectivement comme un dragon. Et ceci nous donne encore une précision. Cette bête fait partie du camp du dragon puisqu'elle parle comme lui. Le dragon est Satan. Et écoutez ce que Jésus nous dit à son propos dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et là, nous avons déjà une indication quant à la nature de cette bête. Et Jésus nous donne un avertissement. Il se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et là, nous aurons l'occasion d'être beaucoup plus précis en continuant la lecture des versets suivants.
Alors, Philippe, pour ne pas nous tenir davantage en haleine, je pense que cette nation qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, avec ses caractéristiques, pour ma part, semble correspondre aux États-Unis d'Amérique.
Oui, effectivement, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et écoutez ce que nous dit Wikipédia. Je vous cite. « Le Mayflower, ou Fleur de Mai, est un vaisseau marchand de 90 pieds, de 27 mètres 40 et de 180 tonneaux. Du XVIIe siècle, qui partit de Plymouth, en Angleterre. Ses passagers furent à l'origine de la fondation de la colonie de Plymouth, dans le Massachusetts. En 1620, il transportait des dissidents religieux anglais, des Pilgrim Fathers, ou Pères Pèlerins, et d'autres Européens à la recherche d'un lieu pour pratiquer librement leur religion. En fait, toutes ces personnes ont fui l'obscurantisme et la persécution que menait la papauté médiévale durant ces 1260 ans. Ce sont eux qui ont inauguré la grande immigration qui allait suivre. Et écoutez ces chiffres de recensement concernant la Nouvelle-Angleterre, toujours donnés par Wikipédia. En 1620, il y avait environ 2300 habitants. 100 ans plus tard, en 1720, ils étaient déjà près de 466 000 habitants. Et 70 ans plus tard encore, 1790, près de 4 millions d'habitants. Et aujourd'hui, les USA comptent près de 326 millions d'habitants. Il s'agit d'une progression fulgurante en très peu de temps. Cette nation est née officiellement le 4 juillet 1776 et reflète les caractéristiques de cette bête dont les cornes sont semblables à celles d'un agneau. La douceur, l'innocence. Ces hommes et ces femmes profondément religieux qui avaient fui la persécution fondèrent un État avec des principes scrupuleux de sauvegarder les libertés humaines. D'où le premier amendement de la Constitution américaine, séparation de l'Église et de l'État. Les USA sont le premier État au monde à instituer et à graver dans le marbre la séparation de l'Église et de l'État, et ce qui a pour conséquence la liberté religieuse. Le symbole des deux cornes de l'agneau représente le républicanisme ou la démocratie, et le protestantisme ou la religion. Tout le contraire de la petite corne arrogante du chapitre 7 et 8 du prophète Daniel, que nous retrouvons, si vous voulez bien, dans les émissions 25 et 26. À la naissance, les USA désirent non seulement assurer le bonheur de ses citoyens, mais aussi soulager tous ceux qui souffrent dans le monde. Cette terre sera le refuge de tous les hommes en quête de liberté.
Philippe, lorsque nous avons commencé à étudier ces prophéties bibliques, vous aviez comparé le temps à une ligne sur laquelle les événements historiques s'inscrivent au fur et à mesure. L'étude de ces textes prophétiques nous permet de situer leur réalisation par le constat des faits historiques. Mais autant il faut parcourir l'ensemble du texte biblique pour comprendre les prophéties sans faire d'interprétations farfelues, autant il faut aller chercher dans toutes les époques afin de voir la réalisation concrète de ces prophéties.
Oui. Et je vous invite à écouter deux versets tirés de la deuxième lettre de Pierre qui nous rappellent que les prophéties ne viennent pas du hasard. Dans le chapitre 1er au verset 20, il est dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. »
Eh bien, merci Philippe pour ce rappel biblique et quant à moi je rappelle que cette bête parle aussi comme un dragon. Vous nous avez donné une brève explication mais pourrons-nous voir plus en détail ce point-là lors d'une prochaine émission ?
Mais avec plaisir Gaël.
Nous allons conclure et je vous propose de garder le mot de la fin ?
Oui mais je le transfère toujours sur la Bible. Un message réconfortant de l'autorité divine tiré du psaume 46 au verset 9. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. »